RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis. On a parlé des chasseurs de trésors et le lien est vraiment bien trouvé puisque jusqu'à 11h on va se mettre dans la peau des archéologues. Les archéologues fascinent hein, véritablement. D'ailleurs qu'on soit enfant ou pas, on pense à Howard Carter par exemple qui a découvert la momie de Toutankhamon. Alors vous allez entendre des associations, des musées, des organismes qui proposent des initiations à l'archéologie. Et vous êtes toujours les bienvenus en direct avec vos témoignages. Est-ce que l'archéologie vous intéresse? Est-ce que ça vous fascine? Ou vous pensez que c'est un domaine qui est encore beaucoup trop entouré de mystères? Est-ce que vous avez déjà été initié à l'archéologie? Est-ce que vos enfants seraient intéressés? Ou alors peut-être qu'ils font ça dans l'activité extrascolaire. On vous attend avec vos témoignages au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr et toujours dans le groupe Facebook « Je pense, donc j'agis ».
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et comme tous les mercredis, on parlera d'éducation, bien sûr, avec Marion Denis du think tank Vers le Haut. Elle nous parlera d'orientation pour les jeunes et de décrochage scolaire. Ce sera à 10h55. Bonjour Kylian Morin.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous en direct de nos studios à Blois. Merci à l'équipe d'ailleurs qui vous accueille. Ah non, pardon, pas du tout, Kylian, Vous êtes à Lille. Je me suis trompé, mais merci quand même à l'équipe de Lille qui vous accueille. Vous êtes responsable de la médiation au parc Asnapio. C'est un parc archéologique qui propose notamment des reconstitutions d'habitats du paléolithique supérieur au Moyen-Âge. Bonjour Laurine Gobert.
Bonjour.
Vous êtes bien à Blois, c'est vous.
Oui, c'est ça.
Merci d'être avec nous. Vous êtes historienne médiéviste, médiatrice culturelle de l'association Archéologie pour tous, hein, qui se trouve à Saint-Laurent-Nouans, c'est juste à côté de Blois. Laurine Gobert, comment l'archéologie vous a fasciné quand vous étiez plus jeune? Parce que vous en avez fait aussi vos études, hein.
Tout à fait. Ça a commencé un peu comme on en entend souvent le témoignage, c'est-à-dire que ça a commencé à l'école primaire où, basiquement, on nous demandait de faire un exposé. J'avais choisi de le faire sur l'Égypte antique. Et comme beaucoup d'enfants, on l'entend souvent hein, chez les archéologues, cette partie, cette période-là de l'Antiquité et ce lieu du monde m'avait particulièrement plu à ce moment-là. Donc j'ai continué à m'informer sur l'Égypte antique. Et puis, petit à petit, décououvrant qu'il y avait un univers bien plus large, évidemment, je me suis plutôt intéressée à la période gauloise et c'est comme ça qu'après j'ai choisi de faire des études en médiation mais aussi en archéologie.
Voilà, et de rejoindre un peu plus tard cette association Archéologie pour tous, alors qui est, je le disais en introduction, qui est à la fois pour les enfants, mais pas uniquement, c'est aussi pour les familles. On sait que c'est une activité, un loisir, on va dire la découverte de l'archéologie, qui fascine vraiment les enfants et les parents.
Oui, tout le monde, et je dirais presque plus que l'archéologie, c'est la reconstitution archéologique. Alors, si on peut employer ce terme, je sais que il y aurait des archéologues qui m'entendraient un peu puriste et qui diraient que le terme de reconstitution n'a pas de sens. Mais ce que j'entends par reconstitution, c'est la réinterprétation des vestiges archéologiques de manière vivante, un petit peu comme on peut le faire en Angleterre. Et c'est ça vraiment qui plaît aux gens, autant que les sites archéologiques eux-mêmes. On a beaucoup de personnes qui viennent nous voir quand on est dans ce cadre-là et qui nous disent que c'est bien plus intéressant d'apprendre de personne à personne, de rendre l'archéologie vivante si on peut, quelque part, du point de vue du public.
On entendait dans la première partie de cette émission quelques échanges entre à la fois les détectoristes, les chasseurs de trésors et puis les archéologues. On va pas rentrer dans ce débat, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'est-ce que c'est finalement l'archéologie, Laurine Gobert? Est-ce qu'on pourrait définir ou nous donner les grands principes de cette profession?
Les grands principes. Alors moi, quand j'étais à l'université, il y avait une professeure qui nous disait que l'archéologie commence quand on n'a plus de traces, quand on est incapable d'identifier l'objet qu'on vient de trouver dans la terre. Si par exemple votre voisin il y a 5 ans a perdu une clé dans votre jardin qui n'est pas aperçue et que vous la retrouvez ensuite, mais que vous ne savez pas à quoi correspond cette clé, déjà vous faites de l'archéologie. Le principe c'est ça, c'est essayer de joindre un petit peu l'objet ou le contexte de ce qu'on trouve sous la terre, hein, c'est un objet, une structure, parfois même tout simplement ce qu'on appelle du substrat, donc une couleur de terre ou ce genre de choses-là, de le joindre à un témoignage ou à une connaissance et essayer d'en tirer des actions, essayer de comprendre ce que les hommes ont pu faire pour qu'on ait ce résultat-là.
Voilà, ça c'est une bonne définition de l'archéologie. Kylian Morin, alors vous êtes pas forcément archéologue, mais par contre vous êtes vraiment passionné par l'archéologie. Vous en avez fait votre métier en étant responsable de la médiation de ce parc hein, qui se trouve à Villeneuve-d'Ascq, le parc Asnapio. Comment vous êtes tombé dans la marmite, vous, Kylian ?
Oh bah c'est un petit peu pareil. Depuis tout petit, fan d'archéologie et d'histoire, j'en ai fait mes études. Et en petit job étudiant, j'ai commencé justement au parc en tant que guide. Et la transmission de savoir à un public qui n'était pas forcément connaisseur, ça m'a permis de découvrir quelque chose de très sympa. Et puis, de rencontre en troupe de reconstitution, finalement, c'était vraiment vers ça, vers cette transmission de savoir et cette histoire vivante qui m'a intéressé. Et puis, de fil en aiguille, je suis tombé dedans et puis j'y suis resté, en fait.
Ce parc archéologique à Asnapio, c'est quand même la star des parcs. Hein. Il est très connu et réputé justement pour son côté à la fois ludique et puis vraiment sérieux. Comment il est composé ce parc ? Parce que alors voilà, il y a des reconstitutions d'habitat à la fois du paléolithique supérieur, je précise. Vous allez nous expliquer ça.
Exactement.
Jusqu'au Moyen Âge, donc ça fait quand même quelques années.
Oui, c'est ça. Ça fait, on est pas loin des 12 000, 13 000 ans d'histoire à peu près. Et l'idée, c'est de faire découvrir ces peuples, de faire découvrir cette partie de l'histoire à travers la société et du coup les bâtiments. Et il y a rien de mieux pour les gens de voir en vrai dans quoi nos ancêtres pouvaient vivre et se rendre compte de comment étaient meublés, etc. Et ça permet de faire une entrée en matière pour expliquer ces différentes sociétés qu'on va parcourir pendant 13 000 ans.
Voilà, donc en fait, il y a plusieurs endroits qui sont à chaque fois vraiment consacrés à une partie de l'histoire.
C'est ça, il y a une maison, en grosso modo, on a une maison par grande période. Un ensemble de bâtiments par grande période. Et puis, on propose que ce soit des visites, que ce soit des ateliers, justement, de s'immerger soit dans sa globalité avec une visite d'une heure, une heure et demie, ou soit à travers des ateliers spécifiques comme... apprendre à faire du feu, on fait même des petites fouilles archéologiques pour que les enfants s'initient rapidement à ce métier d'archéologue, etc.
Et d'où vient ce nom, Asnapio ?
Alors Asnapio, c'est un mot qui va apparaître dans des textes sous Charlemagne et qui va décrire justement une zone près de l'actuelle Villeneuve-d'Ascq, au quartier d'Anap, qui est un des quartiers de cette ville nouvelle. Et on va avoir plein de détails sur comment doit être géré normalement... un domaine sous l'empire de Charlemagne, et Asnapio apparaît, on y apprend comment les chevaux doivent être élevés, comment on doit faire planter telle plante, etc., etc. Et donc du coup, nous on a repris ce nom pour le parc.
Comment ont été conçues ces reconstitutions ? Parce que on va dire qu'il y a rien d'historique dans le sens où ce ne sont pas des vraies maisons ou des vraies fouilles. Par contre, ce sont des reconstitutions. Mais comment est-ce qu'elles ont été conçues ? Est-ce que c'est parti peut-être de documents ?
C'est ça. En fait, c'est le maire, lors de la création de la ville, et l'archéologue qui ont voulu justement rendre cet hommage au passé de cette ville nouvelle qui a été construite. Et ils se sont basés sur des rapports de fouilles avec véritablement les traces de poteaux, les trous de poteaux, etc. Et on a décidé, en travaillant avec des archéologues, des spécialistes de la reconstitution, de refaire ces bâtiments. Donc on a les bonnes tailles, on a les bonnes dimensions, on a le nombre de poteaux, etc. Et après ça, avec des historiens, des archéologues, il n'y avait plus qu'à expérimenter leur recherche actuelle pour mettre ça en vrai et faire pousser ce petit village.
Laurine Gobert pour l'association Archéologie pour tous qui se trouve au sein du centre archéologique de Saint-Laurent-Nouan, donc juste à côté de Blois. C'est un centre vraiment historique où il y a plusieurs fouilles qui ont déjà été faites.
Alors là, c'est un peu compliqué. Disons qu'il y a eu plusieurs étapes dans l'histoire de cette association. C'est-à-dire que, effectivement, à l'origine, l'association, le siège de l'association, tout se trouvait à Muide-sur-Loire et non à Saint-Laurent, justement parce qu'il y a eu des fouilles archéologiques à Muide. Donc particulièrement, la période du site en question, c'était surtout le néolithique, un petit peu la période précédente, donc le paléolithique. Néolithique, c'est la période de sédentarisation. Le paléolithique, c'est encore la période des chasseurs-cueilleurs. Et pour plein de raisons, l'association a dû déménager à Saint-Laurent-Nouan, donc l'archéo-village, qui est un peu comme pour Asnapio, le cœur de projet de l'association, qui avait été partiellement construit à Muide, a migré à Saint-Laurent-Nouan. Et c'est maintenant à Saint-Laurent que tout se passe.
Voilà, Saint-Laurent-Nouan. Avec beaucoup d'ateliers de démonstration qui sont organisés tout au long de l'année. J'allais dire, il y en a pour tous les goûts, en tout cas pour tous les âges. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant de pointer du doigt. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de l'archéologie de la même manière à un enfant en CE1 ou en CM2.
Tout à fait. Alors, et c'est d'ailleurs le grand principe de l'association, c'est-à-dire qu'il y a eu un constat qui a été fait, alors au moment de sa création en 1989, je viens d'arriver, donc il y a des dates qui ne sont pas encore toutes fixes, mais donc au moment de sa création, le premier constat a été fait que, justement, sur les sites archéologiques, les mineurs sont très très rarement admis pour plein de raisons. Et l'association a voulu ouvrir au moins les chantiers et donc plus loin mettre en place des ateliers d'initiation, de médiation aux plus jeunes. Et c'est notre cœur de cible finalement. Enfin, c'est un peu marketing de dire ça, mais
oui,
les enfants, ce sont les premières personnes qu'on essaye d'initier à l'archéologie. Donc effectivement, on s'arrête à 17 ans. Mais on ne s'adresse pas de la même façon à des petits de maternelle qu'on accueille qu'à des adolescents. Par exemple, chez les plus jeunes, maternelle, CP, peut-être même CE1, on va plutôt privilégier ce qui est sensoriel. Mmh. Donc faire des visites en leur proposant des objets, en leur expliquant à quoi ils servent, ou en les laissant un petit peu deviner à quoi ça peut servir. En se focalisant plutôt sur l'environnement. Le fameux archéo-village de Saint-Laurent-Nouan, il présente comme à Snapio des constructions, donc des cabanes, certaines recouvertes de peaux de renne, puisqu'au paléolithique, c'était un des éléments principaux pour la protection. D'autres recouvertes de genêts qui s'inspirent d'un site qu'on a trouvé plutôt en Bretagne, donc qui n'est pas local, mais qu'on a voulu quand même reproduire à notre façon, mais aussi d'une maison néolithique. Tout ça, ça permet d'expliquer aussi les questions de nomadisme et de sédentarisation par la démonstration, si on peut dire, à des plus petits. Mmh. À des plus grands, donc là, je prends l'autre fourchette d'ados qu'on a qui sont au lycée, 15, 16, 17 ans. Là, on va plutôt avoir un discours technique et un peu plus centré sur l'archéologie que sur l'environnement. Où, voilà, on leur explique un peu le principe de la fouille, qu'est-ce que c'est une fouille, pourquoi, comment on fait, mais aussi ce que c'est l'archéologie expérimentale. Comment, oui. En fait, c'est un petit peu le schéma miroir.
Alors, justement, j'aimerais qu'on entre un peu plus dans le détail technique, parce que ce soit pour Asnapio ou pour l'association archéologie pour tous, on est dans une démarche de ce qu'on appelle archéologie expérimentale, et vous l'avez très bien dit. Qu'est-ce qu'on entend par ça? Parce que c'est une branche, finalement, de l'archéologie. Qui veut répondre? Allez, Laurine.
Non, peu importe.
Oui, et en fait, ça me permet de rebondir sur le mot reconstitution qu'on emploie dans ces cas-là.
Oui.
On préfère quand même utiliser le terme d'interprétation, parce que c'est justement tout l'enjeu de l'archéologie expérimentale. C'est ça, c'est cette question de démarche en miroir. La fouille archéologique, elle part de ce qu'on trouve sur le terrain et elle essaye de l'expliquer en fonction du contexte. L'archéologie expérimentale, c'est un peu le contraire. On a des résultats, on ne sait pas trop à quoi ils correspondent, mais bon, les objets sont là, le contexte a été découvert tel que. Et en essayant, en pratiquant les actions, on essaye de voir comment on a pu arriver à ce résultat. Je ne sais pas si c'est très clair. Disons que d'un côté, on met à jour et de l'autre côté, on part de ce qui a été mis à jour pour retrouver l'origine.
Ou pour vérifier des hypothèses.
Pour vérifier des hypothèses, oui. Effectivement. Le meilleur exemple là que j'ai en tête immédiatement, c'est le remontage lithique, qui fait partie complètement de la recherche archéologique, hein, les chercheurs qui sont spécialisés dans le remontage de silex taillé, où on a ce qu'on appelle un nucléus, donc le bloc de silex dans lequel on a taillé. Autour, on a tous les éclats, donc toutes les traces de taille.
Oui.
Et l'archéologue, lui, il va remonter, recoller très progressivement, comme un puzzle en 3D, tous ces éclats de silex pour essayer de comprendre comment le gros bout de silex qu'on avait à l'origine, l'énorme bloc, a été débité. Ça permet de mettre en avant, par exemple, des préparations du silex. Ah bah donc au paléolithique, le tailleur, il s'est dit bah voilà, moi j'ai envie d'avoir quelque chose de plutôt allongé, une lame, donc je vais plutôt tailler comme ci comme ça pour avoir mon arête, et comme ça quand je taperai à un endroit précis du silex, paf, il va sortir une lame. Et c'est là que on se rend compte que il y a plein d'évolutions technologiques autour de ça, et c'est grâce à l'archéologie expérimentale qu'on peut avoir ce genre de résultat là.
Vous voulez compléter, Kylian Morin?
Ouais, bah l'idée elle est exactement pareille, et c'est véritablement aussi, j'aime bien l'appeler un peu l'archéologie du geste. En fait, l'objectif va être de comprendre différentes hypothèses. Moi personnellement, je travaille beaucoup sur la métallurgie du bronze, et donc là il y a tout un travail d'expérimentation sur les terres à utiliser, les différents fours, etc. Et c'est ce qu'on essaye de faire à Snapio à une échelle plus enfants, justement, où là, on va demander aux enfants à eux-mêmes d'essayer d'expérimenter en leur demandant, moi, pour le coup, j'ai aussi l'idée du feu. On leur montre le matériel capable de faire du feu, et ça va être à eux d'imaginer comment, à une période préhistorique, on était capable de faire du feu. Donc, au début, il y a toujours cette petite partie où ils vont essayer eux-mêmes, et après, on va essayer d'apporter véritablement ce geste qui est beaucoup plus efficace que tous les essais qui vont avoir lieu.
Allez, on va marquer une petite pause, et vous avez le temps de nous appeler pour témoigner de l'archéologie. Est-ce que c'est un domaine qui vous intéresse? Est-ce que vous êtes déjà rendu peut-être dans l'association qu'on présente ce matin, Archéologie pour tous, ou alors au parc à Snapio? En quoi ça vous fascine peut-être l'archéologie, et en quoi ça fascine vos enfants et petits-enfants? On vous attend au 04 72 38 20 23. Vous pouvez également laisser vos messages par mail à direct@rcf.fr ou nous rejoindre dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis. On écoute Miley Cyrus sur RCF. On se retrouve juste après. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. Things you don't understand. I can take my Flowers qui a trouvé le succès. Miley Cyrus et cette chanson, ce tube.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Toujours avec Laurine Gobert, historienne médiéviste et médiatrice culturelle au sein de l'association Archéologie pour tous à Saint-Laurent-Nouan. C'est à côté de Blois, et Kylian Morin, responsable de la médiation au parc Asnapio, le parc archéologique qui se trouve à Villeneuve-d'Ascq, hein, qui propose des reconstitutions d'habitats du paléolithique supérieur au Moyen-Âge. Alors quand on pense à l'archéologie, on pense très facilement à cette personne qui va avec son pinceau peigner quelque chose pour essayer de trouver une trace ou un objet. Est-ce que c'est ça, Laurine Gobert, ou alors vraiment je me trompe sur cette image d'Épinal?
Y a toujours un fond de vérité, hein, sur, comme beaucoup de clichés qu'on a sur plein de choses dans la vie. Mais il faut quand même bien se rendre compte que la base d'un chantier archéologique, c'est du BTP. On arrive avec des pelles mécaniques et on décaisse autant qu'il y aura besoin de décaisser. Alors évidemment, avec toute la prudence qui s'impose, parce qu'on est sur un site qui potentiellement, voilà, on n'a pas toujours la profondeur des vestiges, donc il faut toujours faire attention. Mais on commence vraiment avec du gros matériel. Dans l'ordre, on a la pelle mécanique, pas sur tous les chantiers évidemment, mais sur certains quand il faut décaisser beaucoup.
Oui.
Et puis ensuite, on a pioche, pelle. On fonce parfois à la pioche aussi quand la terre est trop dure, parce qu'à un moment, le pinceau, ça va, mais si la terre est vraiment compactée, le pinceau, il fera pas grand-chose. Et en fait, c'est au plus on arrive sur des objets qu'on arrive à délimiter ou sur de la fouille qu'on dit fine, donc quand on a bien décapé les parties qui nous intéressent moins au-delà de la prise d'altitude pour savoir où on se trouve en profondeur dans la terre, éventuellement reconnaître quel substrat, quel type de terre on a à cet endroit-là. Ah bah d'accord, donc cette couleur de terre-là, elle va correspondre à une période qu'on n'identifie pas bien. D'accord, on le note et puis on passe en dessous. C'est aussi un des grands fondamentaux de l'archéologie. Fouiller, c'est détruire ce qu'on va découvrir progressivement. Mais donc plus on arrive sur des vestiges qui sont petits, ou je pense notamment à l'archéologie funéraire et au squelette, plus il va falloir laisser le vestige en place le temps de l'avoir bien en vue. Et donc là, on va utiliser des pinceaux, voire même jusqu'à des instruments de dentisterie pour correctement détourer. Donc voilà, ça
une
va
fraise,
de la pelle mécanique.
Par exemple.
Ah, quand même pas. Non, il y aurait beaucoup d'archéologues qui auraient arrêté le métier, peut-être, je sais pas. Même pas les dentistes. Mais voilà, des pics très très fins pour détourer de façon très précise la terre qu'on a autour des os, mais pas seulement, autour d'objets très fragiles, avec aussi différentes techniques pour récupérer certains objets qui seraient très très fragilisés, qui sont dans la terre depuis tellement longtemps que ils ont forcément besoin parfois de moulage, de choses de ce type-là.
Ouais. Kylian Morin, on en sourit, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui fascine énormément. Il faut être patient, hein, je pense, pour être archéologue. mais typiquement, au parc Asnapio, comment vous arrivez à transmettre ça, cette patience, quand on sait que les jeunes ont de moins en moins de patience, hein, allez, je vais faire mon boomer, ils sont un peu accro à leur téléphone, ils ont besoin d'attendre des messages très, très, très rapidement et tout ça. Mais comment on leur transmet ça, justement, ce qui est une très belle valeur, je trouve, la patience.
Bah déjà, il y a le cadre de notre parc qui est en plein milieu d'un parc naturel dans la métropole lilloise. Donc, le parc, il rentre dans une bulle déjà. Quand ils arrivent à l'accueil, on rentre par une villa romaine. Donc, il y a vraiment une coupure complète par rapport au reste du monde qui se fait. Et donc, et après, c'est un travail de notre équipe, de nos guides qui vont devoir justement amener tout ça, faire comprendre aux enfants que pendant 1 à 2 heures, ils vont être dans un autre monde où l'objectif va être de comprendre l'archéologie, de comprendre comment vivaient nos ancêtres à certaines périodes et de s'entraîner et de laisser un petit peu justement le monde qui va trop vite à côté pendant un court instant.
Et alors, si on s'intéresse un peu plus aux ateliers que vous proposez au parc Asnapio, pardon, je me trompe de mot, qu'est-ce qu'on peut justement y trouver si on a envie de s'y rendre là, ces prochains week-ends ou pour les vacances cet été?
Alors justement, nous, la grosse partie de l'année, on est réservé pour la période scolaire, donc c'est beaucoup, beaucoup d'enfants, c'est aux alentours de, on est un peu plus de 300 enfants par jour qui passent qui passe au parc. Et en effet, pendant les vacances et un week-end par mois, le deuxième week-end de chaque mois, on fait un dimanche festif, c'est-à-dire que là, on choisit une thématique et on va faire venir des intervenants, généralement ce qu'on appelle un peu dans le milieu des reconstituteurs de différentes périodes. Par exemple, notre festivité d'ouverture, c'était sur les légionnaires romains. Donc, on a eu plusieurs troupes de légionnaires qui sont venus pour expliquer la vie dans un campement romain. Donc, c'est des associations qui sont constituées de passionnés, d'archéologues, de professeurs, etc. Et là, pour nous, le 11 juin, on va partir sur une thématique un peu plus libre. On va être sur la mythologie à base de contes et justement initier la mythologie aux plus jeunes qu'on va voir. Donc, on a ces troupes qui viennent, qui vont parler de tout ça. Et nous, à côté, on organise des différents ateliers pour tout âge. Hein. Ça va de 3 ans jusqu'à des ateliers pour les adultes, avec à chaque fois une partie de manipulation en rapport avec la thématique de l'atelier.
Ouais, par exemple
Par exemple, on initie par exemple la métallurgie avec un travail sur du métal repoussé. Alors, ça va pas être des plaques de cuivre qu'on va marteler pour faire ressortir les motifs. Ça va être quelque chose de plus fin et les enfants vont devoir refaire un motif d'une pièce de monnaie, comprendre comment à quoi correspondaient les différents motifs sur cette pièce de monnaie. On va voir des ateliers d'argile où ils vont devoir, avec leurs mains, refaire un objet comme on leur a montré, avec les bonnes techniques. Par exemple, si on leur demande un pot en argile, on va reprendre les techniques qui étaient utilisées, par exemple, au néolithique pour la période, pour les différentes périodes qu'on va avoir, avec les bonnes techniques. Par exemple, on va aussi avoir de la coulée d'étain. On va montrer aux enfants comment est-ce qu'on faisait de la coulée métallurgique. Alors, on peut pas utiliser du bronze puisque il faut monter à plus de 1200 degrés. Il y a tout un côté un peu dangereux pour des enfants de 10 ans. Donc, on va pas être sur de la pierre et sur du métal compliqué à faire fondre. On va être sur de l'étain. On leur montre la cire. Le problème de la cire, c'est que ça va demander tout un temps de séchage qui est long. Alors que nous, on essaye de faire des ateliers d'une vingtaine de minutes. Parce que on va brasser plusieurs milliers de personnes, donc on va être sur les moules en pierre, donc ils vont graver dans du plâtre le motif qu'ils veulent, et on va le fermer, on va le mettre dans du sable pour le stabiliser, et on va faire couler de l'étain qui fond à 200-300 degrés. Donc comme ça, ils ont la sensation et ils comprennent les matériaux qui vont être utilisés, tout en insistant à côté que les véritables matériaux sont là, et on leur fait une démonstration à côté pour monter la véritable chose.
Et on continue d'en parler tous les trois ensemble dans cette émission. Je pense donc j'agis avec tous vos appels au 04 72 38 20 23. À tout de suite. Avec Kylian Morin, responsable de la médiation au parc Asnapio, qui se trouve à Villeneuve-d'Ascq, et Laurine Gobert, historienne médiéviste et médiatrice culturelle pour l'association Archéologie pour tous à Saint-Laurent-Nouan. C'est à côté de Blois, avec l'archéo-village, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, Laurine Gobert, qui est peut-être le point d'orgue, hein, de cette association. Ce qui est intéressant, c'est que vous organisez deux types de journées thématiques. Alors, on a parlé tout à l'heure des journées archéologiques, mais il y a également les journées préhistoriques. Et là, j'aimerais que vous nous en parliez quelques mots, Laurine Gobert. Pourquoi préhistorique ?
Ça vient principalement de la thématique qu'on a choisie pour la construction de l'archéo-village, qui se concentre sur une acception générale, on va dire, pardon, une acception un peu générale de la préhistoire, donc qui part de 3 millions d'années avant Jésus-Christ, paléolithique, et qui s'arrête juste avant l'Antiquité, donc qui comprend cette période qui s'appelle, donc déjà il y a le néolithique dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, le moment de l'agriculture, il y en a qui mettent un peu l'écriture dedans, ça dépend dans quel endroit du monde on se trouve, mais bon. Et ça va jusqu'à donc cette période qu'on appelle la proto-histoire, qui pour certains fait partie de la préhistoire, qui pour d'autres n'en fait pas partie. Bon, ça c'est un débat de chercheurs. C'est ce que moi j'ai l'habitude de résumer en parlant de période gauloise, pour que ça dise quelque chose un peu aux gens. C'est bien plus vaste que ça. C'est surtout la proto-histoire, une période, dans sa définition, autour de laquelle il y a des peuples qui en rencontrent d'autres. Ces peuples écrivent, ceux qui sont rencontrés n'écrivent pas. Je prends l'exemple des Grecs qui rencontrent les Gaulois. Les Grecs écrivent sur les Gaulois n'écrivent pas, en tout cas n'écrivent pas leur histoire. Et donc on parle de proto-histoire, un peu d'histoire par procuration, si on peut dire. Et comme il n'y a pas d'écriture, très fondamentalement, on distingue ce qui est écrit en étant l'histoire, ce qui n'est pas écrit en étant la préhistoire. Donc, on a, nous, à l'archéo-village, toute cette période-là. Voilà. Grosse parenthèse pour dire que...
Ouais.
Donc, les journées préhistoriques, c'est ça. On en a cette année 4. Alors, il y en a une qui est déjà passée. On en a une autre au moment des journées de l'archéologie qui est un peu générique, en fait, qui présente l'archéologie et les différents ateliers qu'on peut proposer sur l'archéo-village pour entrer dans le thème des journées européennes de l'archéologie qui ont lieu les 17 et 18 juin.
Bientôt.
Et ensuite, on ouvre encore, donc bientôt, dans 2 semaines. À ce titre-là, d'ailleurs, l'entrée est gratuite. Voilà, on profite pour
petite pub. Allez hop,
faire un petit peu la pub. Et les deux autres journées préhistoriques qu'on a sont des journées thématiques. Une notamment sur l'alimentation à la préhistoire au mois de septembre, et une autre dans le cadre de la fête de la science sur le sport à la préhistoire. C'est l'occasion de présenter justement des aspects un peu spécifiques de la préhistoire. Alors, on parle de préhistoire, mais c'est du temps long, donc évidemment, on choisit un petit peu nos moments. Mais c'est le principe des journées préhistoriques. On accueille du public qui n'est pas du scolaire à ce moment-là.
Voilà, les journées préhistoriques. Alors, moi, si je devais un peu résumer tout ce que vous avez dit, alors ce serait long, hein, Kylian et Laurine, mais ce que j'entends, c'est que proposer à la fois ces reconstitutions archéologiques, ces ateliers, ces journées thématiques, bah, c'est une manière, pour les plus jeunes d'entre nous, une manière quand même originale et concrète d'aborder l'histoire. Donc, de comprendre l'histoire et puis également de comprendre comment le monde s'est forgé, sans mauvais jeu de mots, et comprendre des métiers qui peut-être n'existent plus aujourd'hui. Vous avez parlé des fonderies tout à l'heure, Kylian, c'est des métiers qu'on a encore de nos jours, notamment dans certaines régions. En fait, on est là dans de l'éducation pure et simple, Kylian.
Oui, bah de toute façon, nous, on se veut un complément de ce que les enfants voient à l'école, notamment. On est là soit pour ajuster ce que le prof dit, ou on est là pour complémenter, soit pour introduire, etc. Et l'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est véritablement d'apporter un plus aux enfants, mais pas que. Hein. On le fait aussi pour les adultes. Je sais pas, qui se sont pris de passion en regardant un reportage sur Arte ou autre chose et qui veulent un peu plus du concret et voir un peu de réalité. Donc, on essaye de rendre tout ça vivant et visuel. C'est ça qui est très, très important pour le public qu'on accueille.
Et les parents, les familles, comment est-ce qu'ils réagissent à ces ateliers? Est-ce que on les voit également des étoiles dans les yeux, fascinés par ces ateliers, Kylian?
Bah, au début, c'est je le fais pour mon enfant, donc je le laisse faire, et puis petit à petit, le parent va venir s'asseoir, va venir prendre le matériel pour lui aussi, et puis il va commencer à le faire non plus pour son enfant, mais pour repartir lui aussi avec à essayer. On le voit pour certains, notamment quand on fait des journées sur faire son feu. Là, enfant comme adulte, c'est à chaque fois une réussite et ça va même plus loin. Au bout d'un moment, il y a même une compétition entre les enfants, les parents, pour qui va réussir à faire sa première braise pour faire son feu. Donc ça fonctionne très très bien. Et en fait, tout le monde retombe un peu en enfance, puisque à partir du moment où il y a de la manipulation, de gestes, il y a de l'usage des mains, on retombe comme un enfant et on s'amuse à le faire. Et c'est notre objectif. Si les adultes se prennent au jeu, c'est qu'on a réussi notre atelier.
Ouais. Et les professeurs alors? Parce qu'on imagine, Laurine Gobert, que les professeurs sont très demandeurs de ce genre d'atelier. Hein. Est-ce que là aussi, on sent que c'est un vrai complément de ce qu'ils peuvent proposer en cours?
Oui, tout à fait. D'une part, parce que quelquefois, nous en tout cas pour la préhistoire, ce sont des périodes qu'ils n'ont pas forcément le temps d'aborder en profondeur à l'école ou au collège. Donc c'est un vrai complément qui apporte... Voilà, quelque chose dans l'enseignement, comme vient de le dire Kylian. Mais il y a aussi, je vais répéter un petit peu ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire qu'il y a ce retour justement au manuel, quelquefois même à la matière, encore une fois, suivant l'âge qu'ils ont, découvrir l'argile, découvrir ce que c'est la pierre, découvrir ce que c'est faire du feu, effectivement. On propose aussi faire du feu. Et finalement, c'est pas tellement le discours qu'on va proposer qui intéresse, c'est vraiment l'aspect pratique. Et même aussi, et c'est important, enfin dans notre cas, la visite qu'on propose est importante aussi. La question de l'environnement, puisqu'on tend vers quand même des paysages qui ressembleraient à ce qu'on pouvait trouver à la préhistoire. il y a cette question de l'environnement aussi qui plaît beaucoup.
Ouais. On a André au 04 72 38 20 23. Bonjour André.
Oui, je voulais...
Bonjour.
Oui, je voulais un peu parler d'un site qui est un peu dans le même sens que ce que de ce qui se passe à Villeneuve-d'Ascq que vous traitez, c'est l'archéosite d'Aubechy. Donc c'est entre Tournai et Enghien. Je connais pas exactement où ça se trouve, mais bon, c'est à peine à 50 kilomètres de Villeneuve-d'Ascq. Et bon, je me posais la question, est-ce qu'il y a une collaboration, une coopération entre ces deux, enfin expériences, on pourrait dire ça comme ça, ou ces deux manières de revoir une époque plus lointaine, enfin qu'on connaît très peu, enfin c'est plutôt l'époque gauloise ou gallo-romaine pour Aubechy. Et bon, c'est très concret aussi, quoi. On est invité à vivre ce que vivaient les gens à ce moment-là, quoi. Donc,
merci André. L'archéosite et le musée d'Aubechy, c'est à Belœil, je crois, en Belgique. Kylian Morin, est-ce que vous avez des liens? Vous n'êtes pas très loin.
Alors, on n'est pas très loin. Notre but est le même pour tous les deux. En effet, ils sont plus concentrés sur la période gauloise et la période romaine. Mmh. Au début des deux parcs, je sais qu'il y avait eu pas mal de relations et d'échanges. Et là, pour le moment, elles ne sont pas forcément officielles. On travaille toujours ensemble parce que on a des contacts, parce que mine de rien, dans le monde des archéosites, c'est tout petit, donc on se connaît un petit peu à droite et à gauche, ou au moins une personne connaît une personne, enfin, etc. Mais si, c'est une volonté de renouer petit à petit les contacts pour proposer une offre un peu plus grande et pourquoi pas des partenariats, parce que c'est comme beaucoup de choses, être tout seul dans son coin, c'est pas forcément utile, alors que si on peut s'ouvrir à la famille, avec la famille de l'archéologie, de la reconstitution, ça permet d'ouvrir plus de portes et de toucher un plus grand public à chaque fois. Surtout que là, pour le coup, on est vraiment à côté.
Laurine Gobert, comment vous faites vous aussi pour, avec l'association, vous ouvrir un peu aux autres? Alors, c'est vrai qu'en termes d'association autour de l'archéologie, il n'y en a pas des masses, hein, si je peux me permettre cette expression. En France, j'ai eu un peu de mal, on a eu un peu de mal à en trouver.
Je ne sais pas exactement ce que vous entendez par association, parce qu'il y en a un certain nombre, mais il n'y a pas forcément beaucoup de parcs archéologiques, voilà, au sens où on l'entend, effectivement. Ça, c'est vrai que je ne saurais pas répertorier exactement combien on en a en France. Il y en a un peu dans le sud-ouest, enfin bon. Dans le nord de la France, il y a une bonne concentration. Nous, pour le moment, on se renseigne beaucoup. Mais on n'a pas encore développé de vrais partenariats avec d'autres parcs archéologiques, pour la simple raison que l'aménagement de notre propre parc archéologique on essaye de faire en sorte que les constructions se fassent par des bénévoles. Donc à ce titre-là, on se concentre vraiment sur cette partie-là, construction bénévole, proposition, initiation à des bénévoles ou lors des stages et séjours d'été aux enfants, comme je le disais tout à l'heure. Et je pense que quand on aura bien plus avancé dans la construction et la structure globale de l'archéo-village, c'est-à-dire qu'on aura un peu plus de maisons, plus d'ateliers, on va dire permanents, là on réfléchira à s'ouvrir effectivement plus à d'autres archéo-villages, d'autres archéoparcs.
Allez, 10h40 sur RCF, un peu de musique avec Clara Luciani en attendant vos appels, tout comme André au 04 72 38 20 23. Venez nous parler des parcs archéologiques que vous connaissez peut-être.
Tu ne fais rien de tout ça. t'as toujours l'air d'arriver d'un long voyage en mer. Toi, tu as tes ombres et tes mystères. Tu vas le cœur en gondolière. Et moi, je veux juste te regarder faire. Tout le monde se ressemble sauf toi.
Tout le monde, sauf toi, c'était Clara Luciani sur RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Avec Kylian Morin, ça n'a pas changé depuis il y a quelques minutes, hein, responsable de la médiation du parc Asnapio à Villeneuve-d'Ascq, à côté de Lille, et Laurine Gobert, historienne médiéviste et médiatrice culturelle pour l'association Archéologie pour tous. C'est à Saint-Laurent-Nouan et ça se trouve à côté de Blois. Alors, on a parlé ensemble de toutes les activités que vous proposiez au sein de vos organismes respectifs. J'aimerais qu'on parle, Laurine, des séjours également que vous proposez, notamment les ados de la tribu.
Oui, tout à fait. Donc, on propose effectivement des stages et des séjours l'été. Alors, les ados de la tribu, pourquoi ?
Pourquoi pas ?
Oui, c'est ça. L'idée, en fait, c'est, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, d'ouvrir cette initiation à l'archéologie au-delà du cadre scolaire et aussi au-delà de l'aspect « il faut être majeur pour accéder à un site archéologique », etc. Et donc, quand ça a été créé, le but, c'était de permettre à ces enfants et ados de venir fouiller ou au moins de venir mettre les pieds sur un site archéologique. Donc, on a deux groupes, en fait, les enfants de la tribu d'un côté, les ados de la tribu de l'autre. Mais comme tout le monde vit un petit peu au quotidien ensemble, on a regroupé sous cette forme-là, la tribu, les deux tranches d'âge qui sont pour les enfants de la tribu du 8-12 ans et pour les ados de la tribu 13-17 ans.
Voilà, c'est vraiment un séjour à la carte, hein, si je puis dire, avec toujours ces initiations aux fouilles. D'ailleurs, qui encadre ces initiations ? Est-ce que ce sont des archéologues diplômés qui font ça peut-être comme divertissement de transmettre, de transmission ?
Divertissement.
Oui, non.
Ce qu'on fait, c'est qu'on on fait un peu d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que les directeurs de séjour, les directrices de séjour, les animateurs qui encadrent ces séjours, on fait attention à ce qu'ils soient diplômés de l'archéologie. Et si ce n'est pas le cas, on fait attention à ce qu'ils aient une expérience significative en archéologie, de telle façon qu'ils puissent encadrer, alors non pas sur chantier de fouilles, parce que quand on était sur chantier jusqu'à l'année dernière, puis pour raison administrative, on a changé. Quand on était sur chantier, il fallait absolument un archéologue sur place. Ça reste un chantier de fouilles archéologiques.
Oui.
Mais on a gardé cette habitude-là, même en travaillant maintenant sur module de fouilles, donc sur un chantier reconstitué, pour que la méthodologie passe correctement auprès des plus jeunes. On reste quand même sur un format, j'allais pas dire d'enseignement, mais sur un format d'initiation qui reste technique. Voilà. Qu'on n'ouvre pas d'ailleurs forcément aux plus jeunes, ou alors pas en tout cas dans le même contexte. Mmh. Et plus spécifiquement, après, on a les stages qui, eux, durent 2 semaines. On en a 2 cette année qui sont prévues. Voilà, je profite encore un coup de pub.
Bah oui, mais vous faites bien, hein, vous êtes là pour ça.
On en a 2 cette semaine. Donc ça dure 2 semaines, on en a 2 cet été. Et là, par contre, c'est vraiment des stages d'initiation plus à l'archéologie et à l'archéologie expérimentale. Donc Sur les deux semaines, les ados sont amenés, c'est ouvert seulement aux ados, donc de 14 à 17 ans, ces stages de deux semaines. Et le but, c'est effectivement de comprendre ce que c'est qu'une fouille, comment on fouille un substrat, on va pas faire des gros trous dans la terre pour récupérer les objets qu'on a vus au départ. C'est plus dur à faire comprendre aux plus jeunes. Mais une fois que ça s'est initié, voilà, on leur explique aussi comment est-ce qu'on va prendre les altitudes, il faut prendre des photos, repérer les dessins sur un plan, repérer les objets ou les vestiges sur un plan, donc faire les dessins. Donc toute la méthodologie qu'on emploie sur un site archéologique classique, nous on le reproduit sur le module de fouille, et comme ça on a cette vraie initiation qui peut être valorisée dans le cadre de Parcoursup par exemple.
Le fait que... Kylian Morin, pour le parc à Snapio, là aussi vous organisez beaucoup d'événements. On a parlé des journées de l'archéologie qui vont arriver dans quelques semaines, hein. Ce sera autour du 14-15 juin, 18 juin d'ailleurs plutôt. Et vous organisez également des journées un peu thématiques. Alors il suffit juste de se rendre sur votre site internet pour... par exemple, voir à l'assaut, ça ce sera le 9 juillet. Il y aura également quelque chose pour les journées européennes de l'archéologie. Quel est le principe de ces journées? Comment vous les créez? Parce que on sent énormément de créativité autour de tout ce que toutes les propositions.
Ça va être c'est un travail avec toute l'équipe et la responsable de ces créations d'événements. On est un parc qui est ouvert depuis 2001 au public. Donc, ça va faire déjà un petit moment. Donc, on va être obligé d'essayer de renouveler cette offre le plus souvent possible et d'essayer de jouer sur les périodes et les thématiques un maximum pour éviter de trop se répéter. Donc là, par exemple, en effet, on va avoir le 11 juin, on va parler sur les différentes mythologies. Après, on va travailler en accord avec l'INRAP, donc l'Institut National des Archéologues de France, où l'objectif va être justement d'amener le travail d'archéologue, véritablement ce qu'ils font avec toutes leurs spécialités. On va avoir, comme vous avez dit, on va avoir à l'assaut, on va avoir aussi en septembre quelque chose sur la petite enfance, justement l'enfance à travers toutes les histoires. Oui. Et après, on peut avoir des choses plus thématiques sur les Gaulois ou des choses comme ça pour essayer de varier un peu les plaisirs et de changer un peu les thématiques pour éviter que ce soit trop redondant pour les gens, puisqu'on a un public assez fidèle qu'on revoit en fait tous les mois ou presque tous les jours pendant les vacances pour différentes animations famille où on fait ou aussi pour quelques petits stages qu'on organise pendant l'été.
Ouais, avec la guerre des Gaules, cette animation, oui. Là c'est en famille, totalement.
Ça c'est en famille, en fait c'est un guide du parc qui a créé une grande maquette en fait qui représente les territoires gaulois, et c'est un petit jeu où vous jouez une tribu gauloise, où vous jouez différents centurions romains, et l'objectif c'est de réécrire cette guerre des Gaules c'est un petit jeu de stratégie et de placement un peu à la risque, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure au début, c'est il y a que les enfants qui s'y mettent et finalement les parents
après, c'est tout le monde.
C'est ça exactement, le but est de vaincre même le fils ou ou le voisin.
Laurine Gobert, à quel moment on sent que la transmission a fonctionné, qu'il s'est passé quelque chose lors d'une journée, que les enfants repartent avec le sourire et leurs parents, évidemment. À quel moment on sent ça? Est-ce que c'est à chaque fois ou alors il y a peut-être quelque chose qui vous a un peu plus ému?
C'est variable, mais en général, quand ils disent qu'ils veulent pas repartir, c'est qu'on est relativement content de notre travail. Ça arrive quelquefois que c'est déjà fini, on peut pas faire encore autre chose, notamment sur un atelier qu'on propose qui s'appelle le tir au propulseur. Alors là on a des cibles d'animaux qui sont disséminées un petit peu partout dans l'espace qui est dédié à ce tir au propulseur. Donc ce propulseur, c'est un outil de la préhistoire dans lequel on met une sagaie, donc une espèce de grande flèche pour caricaturer un peu, et ça va permettre par un geste très simple de viser, de lancer très loin sa sagaie, donc sa grande flèche, un outil de propulsion qui décuple un peu la force. Et ça, les enfants au départ, déjà ils voient que c'est du tir et donc ils sont actifs et ils adorent ça, mais au départ ils sont pas trop fans parce qu'il y a une petite technique à avoir, et puis alors quand ils ont compris le principe, là ils s'arrêtent plus. Et c'est parti. Mais effectivement, quand les parents reviennent avec le sourire, qui nous demandent des dates, là, on sait que effectivement, on a réussi notre objectif, ou de la même façon, quand on a des professeurs qui proposent des projets à plus long terme, c'est pareil.
On arrive doucement à la fin de cette émission. J'aimerais qu'on parle un peu plus de vous, à titre peut-être un peu plus personnel, Laurine Gobert, puisque bah voilà, vous avez étudié l'archéologie, c'est une passion depuis que vous êtes jeune. Vous, à titre personnel, qu'est-ce que ça vous évoque justement de voir ces sourires d'enfants, de les entendre dire on n'a pas envie de partir tout de suite. Est-ce que bah ça vous fait plaisir? Vous vous dites bah là voilà, c'est vraiment un métier de rêve que je fais.
Oui, tout à fait. Bah, d'autant plus que, plus qu'archéologue, c'est la médiation qui m'intéressait. Oui. Donc, j'ai un peu papillonné, on va dire, entre la recherche, la médiation, le terrain. Ouais, j'ai cherché un peu ma place pendant un moment. Et beaucoup de satisfaction déjà de voir qu'il y a eu un vrai échange, que finalement, on a réussi à les intéresser à une période déjà qui nous plaît. Mais aussi peut-être à des techniques aussi, parce que parfois il y a des enfants qui se révèlent vraiment, qui sont pas forcément faits de caractère ou autre pour écouter en classe, mais qui se révèlent au moment des ateliers, qui comprennent, qui savent faire quelque chose, ouais. Que ce quelque chose existe, et il y a un lien qui se crée progressivement, et cette satisfaction elle est partagée. Et c'est effectivement pour ça qu'on fait ce métier-là. Je pense que Kylian dira la même chose.
Ah bah alors Kylian, on vous écoute.
Je sais pas, hein, mais...
Bah, je vais dire exactement la même chose, ouais. Alors, oui, c'est ça, c'est ça qui est génial avec ce métier de médiateur, et où on transmet un savoir, mais surtout une passion, et voir que quand on commence à parler, à expliquer, les gens nous écoutent complètement, et qui après s'approprient l'atelier, s'approprient les gestes, s'approprient les différents matériaux, et finalement ils étaient partis pour juste essayer pendant une minute, et puis 20 minutes plus tard ils y sont encore, et ils veulent pas, comme ça a été dit tout à l'heure, veulent pas partir, veulent continuer, veulent revenir, savoir, les entendre aussi dire ah bah ça je le savais pas, j'ai ouais. appris quelque chose, etc. C'est que la mission elle a été réussie, et voir les yeux qui brillent, parce que finalement l'histoire c'est pas juste quelqu'un qui parle et qu'on doit écouter, mais qu'on peut être actif dans justement cette histoire et cette archéologie. C'est quelque chose de génial à voir, et voir que ça passionne les plus jeunes, c'est toujours chouette.
Des jeunes qui apprennent, des jeunes qui se découvrent, comme vous avez dit, Laurine Gobert, et ça rejoint très bien notre chroniqueuse qu'on va accueillir tout de suite et qui va nous parler de décrochage scolaire. Et nous retrouvons Marion Denis du think tank Vers le Haut. Bonjour Marion.
Bonjour Melchior, bonjour à tous.
Alors vous nous parlez d'orientation, je le disais, pour les jeunes, et donc de décrochage scolaire.
Oui, tout à fait. Alors le décrochage scolaire, c'est un processus qui conduit chaque année des jeunes à quitter le système de formation initiale sans avoir obtenu une qualification. Et c'est d'autant vrai après le bac. Et oui, malgré un taux de réussite du bac qui est supérieur à 85% depuis plus de 10 ans, on observe qu'aujourd'hui, un étudiant sur quatre décroche au cours de sa première année d'études supérieures. Et 52% des étudiants à l'université ne passent pas en deuxième année de licence.
Et alors, comment aider ces jeunes qui sont en décrochage ?
Alors, à Vers le Haut, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles initiatives pour les jeunes et l'éducation. Et nous avons récemment sorti une note avec l'association Evocae, qui a un programme d'accompagnement complet qui prépare les jeunes bacheliers à construire leur projet d'orientation. Ce programme permet de répondre à la difficulté rencontrée par les jeunes à joindre la période lycée et la période études supérieures. Evocae est né en 2020 de l'expérience réussie du programme Sésame à Madagascar, dont l'objectif est d'accompagner les bacheliers défavorisés issus de toutes les régions du pays dans leur parcours de formation supérieure.
Et comment se présente ce programme, Marion ?
Alors, Evocae propose une année de césure structurée qui donne priorité à trois objectifs essentiels, l'autonomie, la persévérance et la capacité d'attention. Le programme de formation est conçu en trois cycles, il est adapté au calendrier de Parcoursup, pour lequel les étudiants doivent être prêts à faire connaître leurs souhaits dès mars. L'objectif est de préparer l'année suivante. Le programme, comme je vous le disais, est construit en trois cycles. Un premier en encourageant la découverte de soi. Il permet l'ancrage dans une communauté et le réapprentissage d'un rythme commun et d'une méthode de travail. Dans le deuxième, chaque jeune explore et définit son projet, qu'il soit avec ou sans Parcoursup, durant une phase dite d'orientation. Et pour mieux préparer l'entrée dans l'année suivante, dans le cycle 3, les travaux réalisés sont plus ciblés par rapport au projet du jeune.
Et alors, très concrètement, comment les jeunes vivent cette expérience ?
Alors plutôt bien à vrai dire, la formation se déroule toute la semaine, tous les jours. En plus c'est personnalisé donc c'est plutôt cool. Les jeunes peuvent choisir leur matière en fonction de ce qu'ils veulent faire et de leur projet. Ils ont aussi des cours de développement personnel, ça leur permet de mieux apprendre à se connaître. Une belle expérience pour se préparer à de longues études et une longue vie de travail.
Bah merci beaucoup Marion Denis. Et l'archéologie pour lutter contre le décrochage scolaire, c'est une bonne idée d'après vous ? Marion ? Ah bah Marion est vite partie.
Ah pardon, non, je suis encore là. Désolée.
Vous avez entendu ma question ?
Oui, l'archéologie pour... Pourquoi pas, oui.
Oui, bah, écoutez, pourquoi pas. Merci beaucoup Marion Denis.
Merci Melchior.
Du think tank Vers le Haut à retrouver sur le site internet verslehaut.org. Et bah, c'est sur ça qu'on va finir cette émission. Merci vraiment à tous les deux d'avoir été avec nous, Kylian et Laurine, Kylian Morin du parc Asnapio à Villeneuve-d'Ascq, à retrouver sur le site internet asnapio.villeneuve-d'ascq.fr. Merci. Kylian, et merci également à l'équipe et notamment à Madeleine qui vous accueillait ce matin. Merci Lorraine Gobert, médiatrice culturelle pour l'association Archéologie pour tous, à retrouver sur le site wordpress.archeopourtous.org. On mettra bien sûr toutes les références sur notre site internet rcf.fr. Merci à l'équipe de Blois qui vous accueillait en studio. Demain, on va parler du système de soins psychiatriques qui est en danger d'implosion en France. Il manque du personnel, de compétences, d'investissement. Et au-delà des patients et des soignants qui sont les premières victimes de cette situation, nous sommes tous concernés car chacun, au cours de sa vie, peut-être confronté pour lui ou pour ses proches à des fragilités psychiques, passagères ou durables. Alors comment agir ? On verra ça demain, dont Je pense donc j'agis, de 9h à 11h avec Stéphanie Gallet. Merci à Antoine et à Maury, Catherine à la réalisation. On se retrouve demain. Bonne journée.